Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour les amis! Comment ça va? Incroyable! Merci d'y retrouver! Kylian, Bast, Uzi Show, Fibo Lapin, Lucie Nature, La Poucave, non, La Poulecave! Incroyable! Yersi, Oxygène Beta, merci pour vos subs! Bonjour tout le monde! C'est comme ça qu'on attend le week-end pour stream. Il s'est passé une dinguerie. Non, 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 il s'est pas passé de dinguerie, mais je profite du fait que je suis à Paris, parce que là je suis entre deux portes et tout, je repars demain. Oh, monsieur est un homme occupé, vous comprenez. Donc non, il y a quand même des trucs à dire. Il s'est passé des trucs cet été. Ah! C'est mieux que la DSL. Ah ouais. Ah non, c'est bon, la DSL, j'ai essayé, je recommence pas. Hein. Hop, le mode lent, on va pouvoir l'enlever. Hop, désactivé, boum. C'est un stream bilan des JO, c'est ça? Ouais, c'est ça, on fait le bilan des JO. Médaille par médaille. Attention, hein. Wow! Merci beaucoup à la personne anonyme qui a offert 10 subs. Incroyable! Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour les 10 subs offerts au chat. Très généreux. Merci CK. Comment vas-tu? Moi ça va, ça va, ça va, ça va. Oh ça va bien. Content de vous voir. Merci Sabrignata. On t'avait donné des congés et tu reviens au bureau en scred, c'est honteux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai une excuse. Non, j'ai pas d'excuse. Je suis en train de chercher. Non, j'ai pas d'excuse. Ah si, 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 j'ai une excuse. En fait, je me faisais chier. Voilà. Je me faisais chier, voilà, j'étais chez moi, bon, voilà, j'ai fait des réunions aujourd'hui, envoyé des mails, enfin j'ai bossé et tout, mais bon, il y a un moment, voilà, je m'ennuyais, quoi. Et c'est pas bon pour la santé du ciboulot de rien foutre comme ça. J'ai vu ton nom passer pour être Premier ministre. Ah! Alors j'ai vu que Gabriel Attal, il avait 40% d'opinion favorable. C'est-à-dire que les Français veulent que ce soit Gabriel Attal qui reste Premier ministre. Mais est-ce que c'est les mêmes Français qui ont voté en juin dernier pour dégager Gabriel Attal? Je sais plus. Je comprends plus rien, moi. Il y a un moment, je fais ce que je peux. Hein. Ça va. Hein. Mais ouais, Gabriel Attal. Alors, c'est marrant parce que, bon, Gabriel Attal, qui a quand même déclaré, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, je ne serai pas le prochain Premier ministre. Fin de citation. Voilà. Gabriel Attal ne sera pas Premier ministre. En tout cas, il a dit non. Après, si Macron l'appelle et lui dit bon, j'aimerais bien que tu restes Premier ministre, là je crois que Gabriel il va s'énerver. Hein. Il va dire écoute-moi bien, connard. Pardon, mais il va dire Monsieur le Président, vous avez dissous l'Assemblée nationale contre mon avis. J'avais 245 députés. Maintenant, j'en ai plus qu'une centaine. Déjà que la tâche n'était pas facile, là elle est impossible. Et vous voulez que j'y retourne? Bah en fait non. Cordialement. Allez vous faire foutre. Enfin voilà, je sais pas comment il va le dire, mais je pense que comme les gens ont appris que Attal avait du mal avec Macron, du coup il est plus sympathique aux gens. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ça c'est un truc que j'ai dit dès le début. C'est que je pense que cette dissolution à la con ne va pas coûter cher à Attal. Je pense que l'opinion publique reconnaît que Gabriel Attal ne voulait pas cette dissolution. Et je pense que l'opinion publique va être plutôt favorable à Gabriel Attal, qui est en fait victime de cette dissolution. Lui, il l'avait pas voulu, hein. Il était en mode « Non, mais moi, je peux continuer à gouverner. Enfin, bon, voilà, on peut le faire, quoi. » Et donc, ouais, non, non, c'est Macron qui dissout, c'est pas Attal. Et du coup, il y a le côté, effectivement, émancipation du petit jeune qui commence peut-être là un bout de carrière dans l'opinion publique en autonomie par rapport à Emmanuel Macron. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Abonnez-vous à ma chaîne, on verra bien dans les prochaines années. Il s'en est pas caché de son seum. Oui, et il a bien raison. Donc oui, effectivement, non, non, mais effectivement. C'est pour ça que je vous dis, non, non, je pense que l'opinion publique, Gabriel Attal, ils lui en veulent pas. Hein. Gabriel Attal, c'est la victime dans l'histoire. Hein. Le mec, il est Premier ministre depuis janvier. Bon, ok, il n'a pas réussi les élections européennes, ça s'est quand même très mal passé pour le camp macroniste. Je suis aussi victime de cette dissolution, j'espère que les Français vont me plébisciter pour devenir Premier ministre. Bien sûr. Attal, candidat 2027, unique du centre, y a moyen. On va garder ce message, on va l'encadrer d'un côté, puis on en reparle dans 2 ans. Mais je suis. Non, non, mais c'est. Il y a un monde où Gabriel Attal, candidat président de la République. Hein. Y a un côté poulain. Je dis pas qu'il va être élu, hein, mais candidat. Il appartenait à quel parti avant Attal? Gabriel Attal, il a commencé au Parti Socialiste et il a rejoint Emmanuel Macron dès 2017, dès 2016. Donc c'est un macroniste de la première heure. Âge minimum pour président, il n'y a pas d'âge minimum pour la présidence de la République. Donc la majorité 18 ans. Il était avec toi au cabinet Touraine. Oui, Gabriel Attal, c'est mon collègue. C'était mon collègue il y a 10 ans. C'était mon collègue. Son bureau était pas loin du mien. Le problème, c'est que personne ne veut d'un Macron boy. Ah, je sais pas. Je sais pas. Les Français nous ont montré qu'ils aiment bien les parcours un peu exemplaires, de petits premiers de la classe. Sarkozy était un peu comme ça aussi dans le genre. Non, Sarkozy était plus très énergique, tout feu, tout flamme, matin, midi et soir, etc. Il y avait un tempo sarkozien qui était très impressionnant, qui plaisait à beaucoup d'électeurs, mais. Non, non, je. Les macronistes s'en sont bien sortis aux législatives, la preuve. Ouais, voilà, c'est ça. Sarko était surtout insupportable. Ah, mais ça, c'était après. Avant, Sarko, il a quand même commencé par être élu président de la République, hein. C'est quand même qu'il a dû plaire à quelques millions de personnes. Donc bon. Ah oui, alors attendez, avant de commencer sur la coalition, vous avez reçu un mail. Vous avez reçu un mail, c'est important. C'est le questionnaire Baxit. Vous savez que pour la deuxième année consécutive, nous terminons Baxit, la saison, pardon, avec un questionnaire qui vous est envoyé et sur lequel vous pouvez nous écrire vos retours. Ça nous donne plein de data, nous, pour savoir Baxi, tout ça, comment ça vous plaît, et puis surtout comment vous le regardez et tout. Donc voilà, le questionnaire, il est disponible sur KissKissBankBank, dans votre espace à vous, quoi. Par mail, tous les tipeurs, tous les gens qui ont soutenu Baxit financièrement ont reçu le mail. Les membres du club Baxit, vous avez un questionnaire séparé, spécifiquement pour le club Baxit, pour avoir des stats spécifiques sur le club. Et votre date limite pour remplir le questionnaire, c'est le 4 septembre. Voilà. Donc, sachez-le, vous avez du courrier, lisez-le, remplissez-le, renvoyez-nous votre questionnaire, ça nous intéresse de savoir ce que vous avez pensé de Baxit, et ça nous servira à designer la saison 4. Fin du message de service. Il y a des questions trop dures, mais ça va. Est-ce qu'on aura un point sur la saison 4 bientôt? Oui, vous aurez un point sur la saison 4 bientôt. Ça reprendra quand ça reprendra. Ça reprendra quand ça reprendra. Mais vous aurez des infos, ça va arriver. Est-ce qu'il y a le droit à la calculette? Oui, il y a le droit à la calculette. On sera noté sur nos réponses, oui, bien sûr. Ça dépendra. Si vous renvoyez pas le questionnaire, vous avez une majoration d'impôt de 10% sur vos impôts locaux. C'est dans la loi de finances, ça. Je sais pas, vous l'avez peut-être pas bien lu, mais c'est voilà. Donc il faut renvoyer le questionnaire Baxit, c'est dans la loi. Y a des questions à points négatifs? Je suppose, oui. Faut écrire au crayon noir ou bleu, monsieur. Arrêtez de manger de la colle. En termes de financement, ça a l'air bien parti. Ah bah non, parce que chaque saison Baxit est financée par Chaque saison Backseat est financée par le public pendant la saison. Donc la saison 3, on a réussi à rentrer dans nos frais, notamment grâce au partenariat qu'on a eu avec le Parlement européen et grâce à vos dons. Merci à vous. La saison 4, on verra. Hein. La saison 4, on verra. Hein. Est-ce qu'on peut répondre au questionnaire et quand même payer plus d'impôts? Oui, tu peux, si tu veux. Si tu veux payer plus d'impôts, t'as le droit. Tu commences avec combien d'épisodes d'avance financièrement parlant? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais avec les abonnements qu'on a maintenant, normalement, on devrait avoir de quoi faire 2 épisodes par mois. Et le reste, il va nous falloir soit aller trouver davantage d'abonnés sur KissKissBankBank, merci pour vos abonnements, soit trouver de nouveaux partenaires pour faire des biforts. Est-ce qu'on continue de financer pendant l'été si on est abonné? Oui. Oui, oui. Ce qui nous aide bien, du coup, à prévoir le début de la saison et à faire nos calculs sur l'année. On a une durée limitée pour rendre le quiz. Le questionnaire, vous avez jusqu'au 4 septembre. Après, on fera un débrief du questionnaire, etc. Vous inquiétez pas. Le café à 17h42, c'est pas ouf. M'en fous, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Le café avec ou sans sucre? Sans sucre. Ah non, parce que quand j'ai commencé à calculer la quantité de sucre que je bouffais à force d'en mettre dans mes cafés, j'ai arrêté. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je voulais qu'on discute quand même. Parce que au cours de l'été, là, il y a eu du courrier qui a été échangé entre les politiques. Il faut que je les retrouve. Ah non, me dis pas que je les ai fermés. Non, c'est bon, ils sont là. Putain, j'ai eu peur. J'ai galéré à les trouver. Donc suite aux élections législatives, différents groupes ont décidé de prendre la plume pour présenter des projets, des programmes, des pactes, des choses comme ça. Et ça a commencé avec les Républicains, avec la droite. Donc la droite, les Républicains, façon Laurent Wauquiez. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en juin dernier, il y a eu une scission chez les Républicains et que Éric Ciotti, qui était jusqu'alors le président du parti, a été viré. Et il est parti avec une dizaine, je crois, de députés. Créer un nouveau groupe de députés à l'Assemblée nationale, un groupe qui s'appelle À Droite, et donc il ne fait plus partie des Républicains. Donc aujourd'hui, quand on parle des Républicains, on parle de Laurent Wauquiez et de ses amis. Ils ont près de 50 députés de mémoire, 47, 47 députés, et voilà. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, c'est le président du groupe LR au Sénat. Ok, il est très puissant au Sénat parce qu'ils sont majoritaires avec leurs alliés centristes. Les 13 textes issus... Donc Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont présenté un pacte législatif d'urgence, c'est le nom de ce document, un pacte législatif d'urgence pour empêcher le blocage du pays. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent dans ce pacte législatif qui va donc être une base de négociation d'un hypothétique gouvernement de coalition ou pas? On va voir. Ces 13 textes, donc ce sont des propositions de loi, il y a 13 propositions de textes de loi faites par la droite qui listent les lois sur lesquelles la droite, avec ses 47 députés, est prête à s'engager, je cite, si le prochain gouvernement s'en empare sans être dans une coalition gouvernementale. Donc Laurent Wauquiez ne souhaite pas particulièrement faire partie d'une coalition gouvernementale. Il ne souhaite pas forcément qu'il y ait des ministres LR. En revanche, il est prêt à soutenir un gouvernement si ce gouvernement s'engage sur la base des 13 propositions de loi faites par les Républicains, leurs 13 priorités. Donc pas de coalition, mais un soutien. Un soutien, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord voter les lois, voter les budgets qui traduisent ces lois, et ne pas censurer un gouvernement qui prendrait ces lois. C'est ça l'idée. La droite républicaine, c'est le nouveau nom du coup du groupe Les Républicains, à l'Assemblée nationale, le groupe présidé par Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, qui rejette toute coalition gouvernementale, a présenté lundi 22 juillet un pacte législatif d'urgence pour empêcher le blocage du pays afin de faire adopter ses idées, notamment pour lutter contre les abus dans les aides sociales et l'immigration incontrôlée. Ce n'est pas une coalition gouvernementale, Ce n'est pas une coalition gouvernementale. Nous sommes indépendants et nous le resterons, a martelé M. Wauquiez lors d'une conférence de presse conjointe avec Bruno Retailleau, son homologue au Sénat. Avec ce pacte législatif qui comprend 13 textes, la droite met sur la table les lois sur lesquelles elle est prête à s'engager si le prochain gouvernement s'en empare, a insisté M. Wauquiez, faisant la différence avec une coalition. Une coalition, c'est signer un chèque en blanc, a-t-il expliqué. Je suis pas d'accord avec lui, mais admettons. Ajoutant que 2 points de non-retour impliqueraient le dépôt d'une motion de censure, une hausse des impôts et une non-revalorisation des retraites. Donc il y a déjà 2 lignes rouges mises par les Républicains. S'il y a une hausse d'impôts, on vote une censure contre le gouvernement. Et s'il y a une non-revalorisation des retraites, on dépose aussi une motion de censure. 47 députés à l'Assemblée. Le texte, qui pour l'essentiel reprend les revendications de longue date de la droite, accorde la priorité à la revalorisation de la France qui travaille. Évidemment, la France qui travaille, Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, travailler plus pour gagner plus, etc. Classique de la droite, effectivement. Accorde la priorité à la revalorisation de la France qui travaille avec l'objectif combattre l'assistanat. Le texte demande l'arrêt de l'immigration incontrôlée et reprend des mesures censurées par le Conseil constitutionnel en début d'année, lorsque la droite avait durci la loi sur l'immigration. Il propose le conditionnement de l'accès aux aides sociales à une durée de présence minimale, ou le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence. Effectivement, ça, ce sont des trucs que la droite avait déjà déposés, préparés, etc. Il n'y a pas de surprise là-dedans. L'AME, je vous rappelle que c'est une aide qui permet aux personnes qui n'ont pas la nationalité française de bénéficier de soins médicaux. Et eux, ils veulent réduire cette aide parce qu'ils pensent que ça fait partie des choses qui attirent l'immigration. Ça fait partie des avantages qui, selon eux, sont des pompes à immigration. Et ils veulent le remplacer par une aide médicale d'urgence. En gros, les seuls soins qui seront remboursés par l'État seront les soins d'urgence. Pas les soins de prévention, pas les soins de machin, uniquement les soins d'urgence. Le conditionnement de l'accès aux aides sociales à une durée de présence minimale, ça existe déjà. Voilà, faudra leur dire un jour, mais ça existe déjà. Alors, probablement ils veulent le renforcer d'une manière ou d'une autre, mais voilà. Le pacte, fameux pacte législatif d'urgence, entend aussi restaurer l'autorité en suspendant les aides sociales pour les délinquants et les parents de délinquants mineurs. Ça aussi, truc qui avait déjà été proposé par les Républicains. De mémoire, ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel, le fait de supprimer les allocations familiales pour les mamans célibataires qui galèrent avec un adolescent qui fait de la délinquance. Et ça avait déjà été proposé par Marine Le Pen, tu as raison. Effectivement, c'est vrai aussi. Tac. La droite républicaine, qui compte 47 députés à l'Assemblée nationale, a joué un rôle central jeudi 18 juillet en soutenant l'élection au perchoir de la macroniste Yael Braun-Pivet. C'est vrai. Avant la présentation de ce pacte par la droite, Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire et chef de file des députés macronistes, a proposé aux élus de son groupe de contribuer à un pacte de coalition avec la gauche et ou la droite républicaine. Pas de changement là aussi, on n'est pas surpris. Gabriel Attal accepte de travailler avec la droite républicaine et la gauche républicaine. Donc ça veut dire les républicains, les socialistes, les écologistes et les communistes, je suis pas sûr. Ouais, en même temps, ils ont panthéonisé Manouchian, c'est compliqué de dire qu'on peut pas bosser avec les communistes. Bon, ça c'est leur contradiction, c'est pas grave. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait appelé les députés du camp macroniste à travailler avec les républicains sur le fond. De son côté, Éric Ciotti, qui a fait exploser la droite avec l'alliance électorale nouée avec le Rassemblement National, a critiqué ce qu'il perçoit comme une alliance avec la Macronie. Le pacte... Alors effectivement, c'est vrai que si vous mettez du point de vue d'Éric Ciotti, Éric Ciotti, c'est le mec qui, pendant 2 ans, a refusé de travailler avec les macronistes, alors qu'il était à la tête des Républicains. Donc c'est sûr que lui, il est dans sa cohérence politique propre, il refuse de bosser avec les macronistes. Il dit non, pas de coalition avec les macronistes. Et en même temps, ce que dit Laurent Wauquiez aussi, c'est la même chose. Laurent Wauquiez, il dit pas de coalition. Pacte législatif d'urgence, mais pas de coalition. Selon Éric Ciotti, le pacte est une marche de plus pour devenir les supplétifs d'Emmanuel Macron, ajoute-t-il dans une lettre adressée aux militants Les Républicains. Monsieur Ciotti, qui est toujours officiellement le président du parti, ah, c'est pas réglé ça? Il annonce son intention de lancer dans les prochaines semaines une consultation pour demander aux militants s'ils souhaitent une alliance avec le camp macroniste ou avec l'extrême droite. C'est un peu triste comme question à poser aux militants, ça. Tu leur dis c'est l'un ou l'autre. Genre c'est la peste ou le choléra, quoi. Je sais pas, moi je me dis, il y a peut-être des militants de droite qui veulent rester indépendants, tu vois, qui sont en mode bah en fait ni l'un ni l'autre. Ce qui a quand même été la ligne du parti ces dernières années. Et pendant tout le premier quinquennat Macron. Je dis bah non, on n'est pas d'extrême droite, on n'est pas macroniste non plus. On est indépendant, on est autonome. Bon, ça me paraît un peu fermé comme question. Je suis désolé, parce que j'ai cherché tout à l'heure un document avec ce pacte législatif d'urgence, les fameuses 13 propositions de loi là, des Républicains, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait tous les articles de journaux, j'ai cherché les liens, cherché les sources. Pas moyen de foutre la main sur un PDF d'un courrier ou de je sais pas quoi qui liste le truc, quoi. Ça devient de plus en plus dur pour les macronistes de se dire de centre. Bah si, ils ont aucun problème à se le dire, hein, t'inquiète pas. Ils se le disent très bien. La preuve, comme l'a dit Gabriel Attal, il est prêt à travailler avec la gauche et la droite. Avec tous ceux qui... toutes les bonnes volontés, c'est l'identité politique du macronisme, hein, depuis 2016. Travailler avec toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent. Pas nouveau. Tac. Donc ça, c'était la partie LR, donc j'ai pas trouvé le document, je voulais rentrer dans le détail, hein. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Hein. C'est ça qui m'intéressait. Par contre, j'ai trouvé le document sur Twitter, j'ai trouvé le document de la lettre qu'a envoyé Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal, lui aussi, il a pris la plume pour envoyer un courrier aux autres groupes de l'Assemblée nationale, ceux avec lesquels il veut bien travailler, pour leur dire quelles sont ses propositions, etc. Donc je vous propose qu'on lise cette lettre. Je suis désolé, elle n'est pas en très haute définition. Mais en tout cas, donc Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République, c'est marrant quand même. Un premier ministre, président de groupe, ça continue à être bizarre. Hein. Je suis désolé, je m'y ferai jamais. C'est pas grave, ça fait partie des bizarreries qu'on est en train de découvrir tous ensemble avec dans la joie et la bonne humeur. Gabriel Attal donc a envoyé un courrier à André Chassaigne, président du groupe communiste, Cyril Châtelain, président du groupe écolo, Stéphane Lenormand, président du groupe Liotte, Boris Vallot, président du groupe socialiste, et Laurent Wauquiez, président du groupe de la droite républicaine, les Républicains. Il n'a pas envoyé de courrier à Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National, Éric Ciotti, président du groupe à droite, et Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise. On retrouve là, du coup, les barrières que fixe Gabriel Attal. Il est prêt à travailler avec tous ces groupes-là, mais pas avec les trois autres, qui sont trop extrémistes selon lui. Du coup, j'ai la réponse à ma question. André Chassaigne, président du groupe communiste. Donc oui, Gabriel Attal est prêt à travailler avec les communistes. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, à l'issue des dernières élections législatives, aucun groupe, aucune formation politique, aucune bannière portée pendant la campagne ne s'est vu donner par les Français une majorité suffisante pour gouverner seul le pays. C'est vrai. Ce faisant, nous devons trouver une nouvelle voie à l'Assemblée nationale par le dialogue et le dépassement des clivages habituels. Pour y parvenir, revenons à l'essentiel, le quotidien des Français, les urgences de notre pays, la préparation de l'avenir. Jusque-là, ça dit pas grand-chose, mais admettons. Ces défis ne trouveront aucune réponse dans le blocage, l'immobilisme ou par un enfermement dans des questions de personnes, le qui avant le quoi. Ces défis, nous ne les réglerons pas en restant chacun dans notre couloir de nage. Nageons ensemble. À l'inverse, nous devons, forces politiques allant de la gauche républicaine à la droite républicaine, nous hisser à la hauteur du moment et bâtir les compromis législatifs tournés vers l'intérêt des Français. Dès le premier jour, nous avons dit notre disponibilité pour avancer dans cette perspective. Les députés Ensemble pour la République, constituant le deuxième groupe le plus important en nombre à l'Assemblée nationale, après le Rassemblement national, ont travaillé ces dernières semaines à l'identification des chantiers que nous considérons comme prioritaires pour les mois à venir. J'ai l'honneur de vous adresser ce pacte d'action pour les Français qui constitue donc la base sur laquelle nous sommes prêts à engager des discussions dans un objectif clair, des résultats rapides pour les Français et de la stabilité pour la France. Six chantiers semblent prioritaires. Le rétablissement de nos comptes publics et le renforcement de notre souveraineté économique. La défense de nos valeurs, de notre laïcité et le renouveau de nos institutions. La qualité de vie des Français, leur pouvoir d'achat, leur logement et leur travail. L'environnement, la sécurité, les services publics, au premier rang desquels l'éducation et la santé. D'autres groupes politiques se sont engagés dans la même démarche et nous en réjouissons. Ça, c'est un gros wink-wink aux Républicains. Cela constitue une base solide pour la discussion que nous sommes prêts à engager. Je me tiens donc, avec l'ensemble de mon groupe, à votre disposition pour échanger sur ces priorités d'action pour les Français et plus généralement sur les conditions qui permettront d'agir concrètement pour eux. Bien sûr, nous ne pourrons pas nous entendre sur tout. Il ne s'agit pas de diluer nos désaccords, de brouiller nos différences au point de les effacer. Ils font partie de la vie politique et démocratique. Ils font partie de la vie politique en démocratie. Il est sain d'avoir des désaccords et des différences. Il ne s'agit donc pas d'effacer nos différences et nos désaccords, mais de les surmonter, de les dépasser, pour agir. Je veux croire que nous sommes nombreux à être prêts à dépasser nos divergences dans l'intérêt des Français et prêts à évoluer pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de l'intérêt des partis. Merci de vous abonner à la chaîne Twitch de Jean Massier. Donc ça, c'est le courrier de Gabriel Attal qu'il a envoyé au président de groupe avec lequel il est prêt à bosser. Il présente donc ses six priorités. Il a un intérêt, ce document, c'est qu'il est flou. Il est flou. Clairement, c'est pas très précis. C'est pas très précis. Ça donne donc de la matière à négociation, parce qu'on peut discuter de tout. Tu vois, quand il dit le rétablissement de nos comptes publics et le renforcement de notre souveraineté économique. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde? Le rétablissement des comptes publics, tu demandes aux insoumis, ils disent « Bah ouais, on va faire un impôt sur la fortune, ça va rétablir, tu vas voir. » Tu vois, bon, ok. Le renforcement de notre souveraineté économique, ça c'est le truc qui est développé quand même depuis plusieurs années maintenant, depuis 5 ans. La défense de nos valeurs et de notre laïcité, le renouveau de nos institutions, ça ne veut rien dire. Rien dire. La défense de nos valeurs, oui, liberté, égalité, fraternité, ouais, ça jusque-là, d'accord, on est tous d'accord, ouais. De notre laïcité, ouais, pareil, pas grand monde qui propose une remise en question. Et le renouveau de nos institutions, bah, c'est-à-dire que... Oui, la troisième page, c'est ça. Car les Français ne peuvent attendre, c'est de leur vie, leur quotidien et leur pays qu'il est question, bien à vous, Attal. Voilà, pardon, excusez-moi, je vous ai pas montré la troisième page. Donc ouais, tu vois, le renouveau de nos institutions, oui, c'est-à-dire c'est les conventions citoyennes, c'est le grand débat national, c'est, moi tu demandes à Clément Vektorovitch, il a quelques idées là-dessus, hein, sur le renouvellement des institutions. Donc bon, ok, très bien. La qualité de vie des Français, leur pouvoir d'achat, leur logement et leur travail. Toute la gauche peut se retrouver là-dedans, hein. Je dis oui, d'accord. C'est suffisamment flou pour dire que, ouais, t'inquiète, pouvoir d'achat, augmentation du SMIC, ça part. Logement, travail, l'environnement, super, ça veut rien dire l'environnement, c'est pas un projet politique en soi l'environnement, enfin il faut dire quelque chose, qu'est-ce que, voilà. La sécurité, sécurité de qui, de quoi, comment, quoi, pourquoi, etc. Les services publics, au premier rang desquels l'éducation et la santé, pareil, tout le monde est d'accord. Donc bon, ce document de Gabriel Attal dit pas grand-chose, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais vous souligner. Il dit on est prêt à bosser avec tout le monde. Mais ça, j'ai envie de dire, ça fait 7 ans que les macronistes sont prêts à travailler avec tout le monde. Ils disent, bah, en fait, ceux qui veulent discuter, on discute, enfin, let's go. On adopte des amendements, on papote, on négocie, on avance, on peut tomber d'accord, quoi. Ça va pas... Ouais. Et à côté de ça... Oula. Voilà. Et à côté de ça, tu as le document du Nouveau Front Populaire. Bah oui, le document du Nouveau Front Populaire, c'est le programme. Eux, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas eu besoin d'envoyer un courrier. Hein. Ils ont dit, bah ça c'est notre programme, on a été élu dessus, donc on est prêt à le défendre. Vous le connaissez, programme de rupture, état d'urgence sociale, défi climatique, droit au logement, réparer les services publics. Apaiser, oui, ça c'est les trucs sur l'interdiction des LBD et sur les associations. Retrouver la paix en Kanaky-Nouvelle-Guinée, mettre à l'ordre du jour le changement en Europe. L'urgence de la paix, ça c'est toute la partie internationale. Et ça c'est le programme des 100 premiers jours. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on apprend à ce petit jeu à ce petit jeu de coalition simulator? Bah pas grand-chose en fait. C'est que chacun a pris la plume au cours de l'été pour dire qu'il était prêt à travailler avec les autres à condition qu'il soit d'accord avec son programme. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Les discussions ne font que commencer. C'est pour ça que là, demain, Emmanuel Macron va recevoir dans son bureau les différents représentants des forces politiques au Parlement. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui a popé, à part la proposition de destitution sortie du chapeau par la France Insoumise dimanche dernier. Pas grand-chose de nouveau. Demain, c'est pas vendredi. Attends, on est quel jour demain? Je suis perdu dans ma tête. Ah non, on est jeudi demain. Ah ouais, non, c'est vendredi, pardon, c'est vendredi. Je croyais qu'on était jeudi. Donc ouais, non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Je pressens quand même que les propositions des Républicains sont plus à même de faire l'objet d'un consensus avec Gabriel Attal que les propositions du Nouveau Front Populaire. Parce que les propositions des Nouveaux Fronts Populaires, notamment en matière de services publics, etc., ça va essentiellement être de l'augmentation de dépenses de l'État. Or, Gabriel Attal a dit qu'il faisait partie de ses priorités de ne pas de maintenir la stabilité budgétaire du pays. Donc pas de grosses augmentations de budget. On peut négocier à la marge sur certains budgets, mais on va rester dans les étiages. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que Gabriel Attal proposait de repartir sur le budget de l'année dernière pour l'année prochaine. Faut pas être surpris, c'est normal. De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc voilà. Et on a vu que les Républicains, eux, ils ont dit clairement qu'ils voteraient une motion de censure si jamais il y avait une augmentation d'impôts. Donc, OK pour trouver 10 milliards d'euros d'économies, mais pas OK pour augmenter les impôts. Maintenir la stabilité, ça peut être augmenter les dépenses et les impôts. Bah, ça se fera pas avec les Républicains à ce moment-là. C'est les affaires courantes de préparer le budget? Ah oui, parce que tu peux pas faire autrement de toute façon. Bien sûr que tu dois préparer un budget, quel qu'il soit. Encore une fois, je vous rappelle qu'un projet de budget, ce n'est rien d'autre qu'un document martyr qui va être charcuté à l'Assemblée. C'est pas le gouvernement qui fait le budget. C'est le Parlement qui fait le budget, qui vote le budget, qui décide le budget, qui débat du budget. Le gouvernement, il prépare une première copie. Et la première copie, elle va se faire défoncer. Enfin, c'est une copie, hein, c'est... C'est quand la rentrée à l'Assemblée nationale? C'est le 1er octobre. Sauf quand il y a du 49-3. Ah non, non, ça change rien. Quand il y a du 49-3, tu peux voter la censure du gouvernement. Si t'es pas d'accord avec son budget, tu peux voter la censure. 49-3 n'est pas une baguette magique, toujours pas. Une situation à la Belge avec une absence totale de gouvernement pendant plusieurs mois, c'est probable. Bah, c'est peut-être ce qu'on va avoir, ouais. D'ailleurs, je vous rappelle que dans le dernier budget, Elisabeth Borne, elle a déclenché le 49-3 après l'examen des amendements. Donc elle a gardé les amendements qu'avait reçu un avis favorable du gouvernement. Quarante-neuf-trois, c'est possible avec un gouvernement démissionnaire? Bah a priori non, parce que tu ne peux enclencher un 49-3 que si tu as un gouvernement responsable devant un parlement. Un gouvernement démissionnaire n'a plus sa responsabilité engagée. Il ne fait qu'expédier les affaires courantes. Il faut qu'il y en ait un nouveau, quoi. Donc il faudra qu'il y ait un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait rien avant le 15 août. Bon, on est le 21, il n'y a toujours rien. Enfin si, il y a une réunion vendredi. Donc si ça se trouve, on aura un nom de Premier ministre ce week-end. Ou plus tard. J'ai vu que Gérard Larcher, le président du Sénat, lui, il avait dit que selon lui, il n'y aurait pas de gouvernement avant la fin du mois de septembre. En disant, de toute façon, ça sert à rien, le Parlement n'est pas en session. Donc, gouvernement, pas gouvernement. Il y a les Paralympiques qui commencent, faut pas rêver. On verra. Tu penses que Macron attend aussi pour que le prochain gouvernement se retrouve à ne pas avoir le temps de négocier le budget? Non, ça je pense pas. Ça je pense pas, parce que tu peux pas empêcher un gouvernement de préparer un budget et un parlement de le voter. Ça, Macron, il peut pas toucher la couleur du parlement. Je croyais que c'était justement parce qu'il n'y a pas de gouvernement que le Parlement est vide. Ah non, 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 non. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Non, 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 le Parlement n'est pas en session, c'est tout. C'est l'été, le Parlement ne siège pas l'été. Sauf session extraordinaire qui peut arriver. Mais non, 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 il n'y a pas de session. Il y aura peut-être une session extraordinaire en septembre, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que la session reprend le 4 septembre, mais je vous ai parlé que de la session ordinaire. Il peut y avoir une session extraordinaire qui reprend la semaine d'avant. Tu le sens comment la rentrée d'un point de vue manif social? Tu sais, la météo des mouvements sociaux n'est pas une science exacte. C'est très difficile de prédire les rentrées sociales. J'en ai entendu plus d'un se planter en prédisant que ça va être une grève générale interprofessionnelle avec des manifestations à plusieurs millions de personnes dans les rues. Ça s'est souvent planté. J'en ai aussi entendu me dire que tous ces groupes Facebook de connards qui mettent des gilets jaunes sur le pare-brise de leur bagnole, ça va pas donner un mouvement social massif. Ça va durer qu'un week-end et on n'en parlera plus. Est-ce que le Conseil constitue pourrait être saisi sur le fait que les ministres en exercice ont voté sur le bureau de l'Assemblée nationale? De ce que j'ai compris, il y a déjà une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui estime que ça fait partie de la libre administration des chambres et que ça ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel. La Constitution prévoit que l'Assemblée nationale est libre de s'administrer comme elle le souhaite et c'est pas, ça relève pas du contrôle de constitutionnalité des lois. Il y a un contrôle de constitutionnalité sur le règlement intérieur de l'Assemblée, mais pas sur son fonctionnement habituel. Alors que c'est le plus gros mouvement social des 20 dernières années. De quoi, les Gilets jaunes? Non. Les Gilets jaunes a été un mouvement social très important, surtout au début, après ça s'est un peu avec le temps. Mais non, 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 non. Le mouvement social contre la réforme des retraites, porté par Elisabeth Borne, était un plus gros mouvement social en nombre de manifestants. Après, c'est toujours pareil, ça dépend comment tu calcules, est-ce que tu comptes le nombre de grévistes, est-ce que tu comptes le nombre de manifestants. Le CPE, c'était en 2006, c'était il y a bientôt 20 ans. Qui décide de s'il doit y avoir ou non un vote de confiance lors de la nomination d'un Premier ministre? Est-ce que c'est le Premier ministre lui-même? Oui. La Constitution autorise le Premier ministre, s'il le souhaite, à demander un vote de confiance. Il n'est pas obligé de demander un vote de confiance. Et s'il ne le demande pas, alors il n'y a pas de vote. Par contre, il peut y avoir un groupe de députés qui décide de déposer une motion de censure dans la foulée. Donc, du coup, il y aura un vote. Ce sera pas un vote de confiance, ce sera un vote de censure. Donc c'est en miroir, c'est la même chose, tu vois. À quoi sert un vote de confiance? Un vote de confiance, c'est un vote symbolique mais politique qui permet à un Premier ministre d'asseoir son autorité dès son entrée en fonction. C'est ça un vote de confiance. Le président de la République m'a nommé Premier ministre. Mesdames et messieurs les députés, est-ce que vous me soutenez? C'est ça un vote de confiance. Tu poses la question, qui est avec moi? Et si tu as une majorité de députés qui te soutient, bah, ça veut dire que tu as un poids politique non négligeable. Quand Elisabeth Borne a été nommée Première ministre, elle n'a pas sollicité la confiance de l'Assemblée nationale, parce qu'elle savait très bien qu'elle ne l'aurait peut-être pas, voire même sûrement pas. Donc, elle a commencé son mandat pas hyper confortable. En même temps, c'est vrai, avec une majorité relative. C'est ça, avoir une majorité relative. C'est pas avoir la confiance de la majorité. Pas facile. Si Lucie Castet est nommée, est-ce qu'il y a vraiment un risque de motion de censure? Ah oui. Ah oui. Si Lucie Castet est nommée première ministre et qu'elle nomme un gouvernement, elle désigne des ministres, dont des ministres insoumis, il y aura un vote de censure dans la minute. Voilà. Les ministres insoumis seront ministres pendant 48 heures. T'as même pas le temps de changer les draps au ministère. Et je dis ça parce que les députés en question l'ont déclaré, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Le RN a dit qu'évidemment il censurerait le nouveau Front Populaire s'il arrivait au pouvoir. LR aussi, et les macronistes aussi, ils ont dit la ligne rouge, c'est s'il y a des ministres LFI, on censure. La question c'est, s'il y a un gouvernement macroniste LR, coalition pas coalition, on verra les détails, mais s'il y a un gouvernement centre et droite, est-ce qu'il y a une motion de censure qui est adoptée? Parce que si le NFP dépose une motion de censure, alors il a besoin du RN pour qu'elle soit adoptée, la motion de censure. Peut-être que le RN va préférer ne pas voter de motion de censure tout de suite. Ils pourraient pas leur faire à l'envers, appliquer le programme du NFP sans ministre LFI. Non, la vraie question. La vraie question, c'est si il y a un gouvernement de Lucie Castet sans insoumis dedans, donc que avec des socialistes, des communistes et des écolos, que ce gouvernement est pas de coalition, mais qu'il est quand même soutenu par les macronistes qui ne votent pas de motion de censure, est-ce que les insoumis déposent une motion de censure en espérant que le RN la vote? Est-ce que LFI va censurer un gouvernement de centre-gauche avec les voix de l'extrême droite? Je sais pas. T'y crois à un premier ministre centriste, ex-PS, type Cazeneuve? Ce serait habile de la part de Macron, ça permettrait de fracturer le nouveau Front Populaire. En tout cas, Lucie Castet, de son côté, au cours de ses dernières interviews, elle a donné des gages. Elle a donné des gages en disant « nous trouverons des compromis ». Nous trouverons des compromis, c'est-à-dire que si elle est nommée Première Ministre, Lucie Castet, elle va chercher à trouver des compromis avec les macronistes. Et elle ne le fait pas pour le plaisir, elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix. Si Lucie Castet est nommée Première Ministre, elle a un budget à boucler en très peu de temps. Vu les priorités qui ont été données par les macronistes, LR et le RN, si tu veux pas te le faire dégager direct ton budget, t'as intérêt à trouver des compromis. Est-ce que l'NFP, en mettant autant de temps à désigner Lucie Castet, n'a pas raté un moment politique? Si, je pense. Oui, si. Je pense que le fait que le NFP et pris effectivement du temps à montrer aux yeux du monde ce que tout le monde savait déjà, c'est-à-dire que le NFP est divisé. Et c'est vrai que c'est pas top, quand tu prétends gouverner le pays, de commencer par dire à tout le monde « Attendez, on va s'engueuler entre nous d'abord, ensuite on revient vers vous avec une proposition. » C'est pas idéal. C'est pas top. Est-ce que le RN a déjà refusé de voter une motion de censure de LFI ? Non, la stratégie du RN, ça a été de voter les motions de censure de la France Insoumise quand elles étaient proposées. La stratégie du RN, c'est toujours la stratégie de la dédiabolisation. Hein. Le RN, Ils montrent un visage respectable, ils disent, regardez, nous on est des patriotes, on défend la France, quand c'est dans l'intérêt supérieur de la France, on est prêt à voter des textes, même s'ils viennent de la gauche, on s'en fiche, ce qui compte c'est le résultat, etc. Ce que la gauche s'est toujours refusé à faire. La gauche ne vote pas les textes de l'extrême droite, même si c'est des motions de censure. Ils disent, bah non. Oui, on veut censurer le gouvernement, mais on n'est pas prêt à voter avec les fachos pour ça. Non, pardon, on n'est pas prêt à voter des textes de fachos pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, la gauche n'est pas pour l'intérêt de la nation. Ils n'en ont pas la même lecture. Alors, on va dire ça comme ça. Est-ce que les macronistes voteraient une motion avec le RN s'il y a des ministres LFI, tu penses? Ouais, je pense. Ouais, je pense. C'est une bonne question que tu poses, hein, mais je pense oui. Je pense que les macronistes, ils ont été assez clairs sur le fait que s'il y a des insoumis dans le gouvernement, on vote la censure, point barre. On se demande qui sont les fachos à la fin. Bah, c'est les antiracistes qui sont intolérants. C'est les racistes qui sont intolérants. Puisqu'ils sont intolérants envers le racisme. Tu comprends? Bah ouais. Motion hors RN pour moi. Oui, Denis, non, Denis, je suis d'accord. Donc Denis Masseglia qui est présent dans le chat, allez voir sa chaîne, il est super chouette. C'est un député du camp Emmanuel Macron, du groupe Ensemble pour la République. Et effectivement, ce que je disais, c'est que les macronistes voteront avec les RN, mais voteront sur une motion de censure qui sera déposée par les macronistes. Effectivement, des macronistes ne vont. Peut-être que des macronistes vont préférer ne pas voter une motion de censure déposée par le RN, pour la même raison que la gauche. Ok pour censurer un gouvernement avec des insoumis dedans, mais pas ok pour autant pour voter une motion de censure déposée par le RN. Depuis quand ça gêne Ensemble de pactiser avec le RN? Mais Ensemble n'a jamais voulu pactiser avec le RN! Détrompez-vous, Ensemble n'a jamais voulu pactiser avec le RN. C'est le RN qui s'est amusé à voter des textes de Ensemble. C'est Marine Le Pen qui a été maligne en décidant de voter à la dernière minute le texte de loi sur l'immigration. Mettant dans l'embarras le gouvernement et les macronistes, qui étaient bien emmerdés de justifier du fait qu'ils avaient fait un texte soutenu par l'extrême droite. Mais c'était pas de la volonté d'Ensemble. Non, non, mais vous trompez pas, hein, la loi immigration, c'est pas Ensemble qui a fait un accord avec le RN. C'est le RN qui a voté la loi déposée par les macronistes sans faire d'alliance avec eux. Le RN vote aussi des textes LFI. Ah bah ce petit jeu-là, alors oui, parce que alors oui, alors pardon, si vous voulez contrôle, on va quand même rappeler que la France insoumise a deux vice-présidentes de l'Assemblée nationale qui ont été élues grâce aux voix du RN. Je sais, ça la fout mal, mais c'est vrai. Donc quand ils décident de troller le RN. Ils mettent les gens dans l'embarras. Que ce soit Ensemble, que ce soit le LFI ou n'importe quel autre camp. Je trouve que le RN fait le jeu de Ensemble en votant LFI. T'es con. Du coup, la loi immigration n'aura jamais dû passer. Ah bah si. Ah si, elle est passée par le vote des députés. Est-ce qu'on sait si le RN a profité de l'été pour mieux former ses députés? Oui, sans doute. Oui, sans doute, il y a des formations pour les nouveaux députés. C'est quelque chose d'assez classique. pour les partis, surtout pour le RN qui a un enjeu non négligeable là-dessus. Et on sait que les pratiques du Rassemblement national à l'Assemblée nationale sont assez sévères vis-à-vis de leurs propres députés, qui ont des obligations de présence, etc., qui doivent porter la cravate et tout. Ah non, c'est le RN, c'est carré, hein. Puis ça fait un joli son, les bottes en cuir sur les pavés. Enfin bref. Des stages de désabilisation. Ouais. Exactement. C'est carré à la haine, mais pas au Parlement européen. Au Parlement européen, c'est le bordel. C'est des zadistes. Les obligations de présence, on n'avait pas remarqué. Ah, les députés RN font partie des députés les plus présents en séance publique. Regardez les images. Regardez les images dans les séances publiques, vous verrez qu'il y a souvent beaucoup de RN. Ça fait partie des règles qui ont été fixées par Marine Le Pen, dès le début. En disant, moi je veux des députés RN dans l'hémicycle en permanence, je veux que les Français voient qu'on est là, etc. Ils font des stages de récupération de points Godwin. les moins, c'est l'IOT et LR, c'est RN puis Renaissance, sur la présence en séance publique, ouais. Mais comme je vous l'ai toujours dit, attention, la présence en séance publique n'est pas l'alpha et l'oméga du travail parlementaire. Ne jugez pas la qualité d'un député sur la seule métrique de sa présence dans l'hémicycle. C'est pas intéressant, c'est pas le plus intéressant. Il y a aussi le travail en commission, il y a le travail sur le terrain, il y a le travail dans des missions d'information, des commissions d'enquête, des rapports divers et variés, etc. Je suis passé à côté du débrief, du coup ça peut donner quelque chose, la démarche de destitution de la France Insoumise, quel est le but recherché? Le but recherché, alors j'ai écouté Mathilde Panot qui était invitée ce matin dans la matinale de France Inter, qui s'est assez bien défendue d'ailleurs je trouve, sur sa proposition de destitution du président de la République, en inversant la charge de la preuve et de l'intolérable, en disant en fait c'est la situation politique créée par Macron qui est intolérable, c'est pas la proposition de destitution. La proposition de destitution n'est rien d'autre qu'une réponse à cette situation intolérable. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Non. Non, la destitution du président de la République n'aura pas lieu, je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Parce qu'il faut un vote aux deux tiers de l'Assemblée et du Sénat. Autant dire qu'avant d'avoir un vote aux deux tiers dans cette Assemblée-là, on va pouvoir courir longtemps. Si, il pourrait y avoir un vote aux deux tiers avec le RN plus Renaissance sur une motion de censure contre la France Insoumise. Ça, éventuellement. Éventuellement, on pourra avoir deux tiers de députés qui votent, ouais. On verra. On verra. Au final, un nouveau président ne changera pas le blocage à l'Assemblée nationale. Exactement, tu as parfaitement raison. Très bonne manière de réfléchir, tu as parfaitement raison. Si Emmanuel Macron démissionne demain matin, qu'un nouveau président de la République est élu là avant Noël, il ne résoudra rien du problème à l'Assemblée. L'Assemblée nationale, elle a été élue en juin dernier, elle est élue pour un an minimum, il n'y aura pas d'élection avant un an. Quel que soit le président de la République, il aura le même problème. Du coup, scénario, imaginez, Macron démissionne, ou mieux, Macron est destitué, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, et il se retrouve à devoir nommer un gouvernement qui doit trouver un accord avec les macronistes pour faire passer le moindre budget. Pas le choix. C'est con, hein. Vas-y, Jean-Luc. Par devant, on tue. Montre-nous le chemin. Ça m'intéresse. Pour que lui-même se fasse destituer dans la foulée. Ah ouais, parce que du coup... Oui, c'est ça. Donc, on continue le scénario. Jean-Luc Mélenchon est président de la République. Il galère à nommer un nouveau gouvernement, vous vous en doutez bien. Du coup, le RN déclare « Si Emmanuel Macron ne nomme pas Jordan Bardella Premier ministre... nous déposons une procédure de destitution. » Non, pas Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Du coup, deuxième destitution, cette fois-ci proposée par le RN, soutenue sans doute par LR et peut-être des macronistes, j'en sais rien, et rebelote. On refait une élection présidentielle. Du coup, il nous reste qui? Et là, c'est Marine Le Pen qui est élue présidente de la République. On est en genre février. Et bah rebelote, elle a pas de solution en fait, parce qu'elle doit à nouveau nommer un gouvernement qui doit trouver une majorité. Non, non, c'est sympa. Comme ça, on crame tous les candidats à la présidentielle, un peu habituels, hein, ceux qu'on a l'habitude de voir, on les crame les uns après les autres. Et l'année prochaine, bon, entre-temps, ma chaîne Twitch explose, hein, évidemment, vous en doutez bien, c'est tellement le bordel. Des élections tous les 4 matins, on fait des campagnes présidentielles et tout, machin, c'est génial. Abonnez-vous, hein, évidemment. Et donc, en juin 2025, on fait une grande assemblée des Français, comme ça. On se réunit tous au Stade de France et on se dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries 2 minutes. Et là, on donne le micro à Clément Viktorovitch, qui débarque sur scène au Stade de France et qui dit « Je propose une assemblée constituante qui va résoudre tous nos problèmes. » En rappel. Ouais, en rappel. Clément Viktorovitch qui descendra en rappel d'un hélicoptère que je piloterai. Alors on va faire ça comme ça. Et donc voilà. Et donc, constituante, qui en fait ne résout aucun problème, parce qu'une constituante, ça met beaucoup de temps à travailler. Donc pendant ce temps-là, on est toujours sous la Ve République et on n'avance pas. Ça vous va comme scénario? Il y aura Gojira. Oui, il y aura Gojira. Oui, il y aura Gojira. Oui, c'est sûr. Je pense que tu feras un burn-out avant qu'on résolve ces problèmes. Ah, moi, je vais péter un plomb, ça c'est à peu près sûr. Mais on fera des streams sympas. Je vais essayer de vous décortiquer tout ce merdier. Le tout en direct sur Twitch. Ah, le tout en direct sur Twitch, hein. Moi, il n'y a pas de droit de diffusion sur les travaux parlementaires et les allocutions des présidents de la République, donc ça part. Faudrait un tableau avec des flèches. On prépare un bingo. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, tout ça rebondissait sur un message très intelligent du chat qui faisait remarquer que si on change de président de la République demain, ça ne résout pas le problème. Le problème, il est à l'Assemblée. Et donc, de facto, au gouvernement. Parce que vous avez bien compris que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Toute la question qu'en ce moment toute la France se pose, c'est quel gouvernement peut avoir le soutien de cette Assemblée? L'Assemblée qu'on a là, l'Assemblée qu'on a élue en juin dernier. Qu'on a élu, pardon, en juin dernier. Bah c'est pas facile. On peut faire une année sabbatique comme les Belges pour trouver une solution. Bah, c'est-à-dire que le genre de scénario que je viens de vous décrire, en fait, ça finit effectivement à la Belge dans une logique où t'as une majorité de. Enfin, le gouvernement est assuré par des hauts fonctionnaires qui ne font rien d'autre que reconduire ce qui existe déjà, parce qu'ils peuvent rien faire d'autre en réalité. Il n'y a pas d'initiative politique, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de. Tu peux rien faire. L'économie française risque d'en prendre un coup, hein, quand même. Parce que les investisseurs, tout ça, ils n'aiment pas ce genre de merdier politique. Voilà quoi. Je suis confuse, je pensais que la coalition de gauche avait la majorité à l'Assemblée. Alors, non. Il y a des gens qui t'ont menti en te disant que la gauche avait remporté les élections législatives de juin 2024. C'est plus compliqué que ça. La coalition de gauche, composée des quatre groupes de la France insoumise, des communistes, des écolos et des socialistes, comptabilise un peu plus de 200 députés. Ça fait de leur coalition la coalition qui a le plus grand nombre de députés par rapport aux autres. On appelle ça une majorité relative. Mais ils n'ont pas une majorité absolue. La majorité absolue, c'est 289. Personne n'a la majorité absolue aujourd'hui. Il y a une autre coalition qui a plus de députés que le Nouveau Front Populaire, qui est la coalition des macronistes et des républicains. Pour l'instant, cette coalition n'a existé que sur un seul vote, c'était l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a été élue par une coalition de fait des votes des macronistes et des LR. Est-ce que cette coalition peut être la base à un gouvernement? C'est toute la question que je me pose sur ce stream depuis 2 heures. Depuis 1 heure, pardon. Mais non, la gauche n'a pas remporté les élections législatives Pour te le dire autrement, il y a 200 députés de gauche dans cette assemblée, il y en a 350 de droite. Attends, je vous laisse faire les maths. Est-ce que selon vous, la gauche a gagné? La majorité absolue n'existe plus depuis 2 ans. Tu as raison, il y avait des majorités relatives. Non, non, je suis pas de droite. Je sais, c'est pour te troller, Denis. Mais du point de vue de la gauche, si. Puisque du point de vue de la gauche, tout ce qui n'est pas de gauche est de droite. Par définition, j'ai envie de dire. Et l'inverse est vrai. Oui. Il y a 350 députés de droite dans cet hémicycle. Il y en a qui sont de droite macroniste, il y en a qui sont de droite conservatrice, il y en a qui sont d'extrême droite. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Du point de vue LFI, tous les gens ne sont pas sectaires. Bien sûr. Non mais c'est pour ça que, encore une fois, moi sur cette chaîne, je ne rentre pas dans le jeu de savoir qui c'est qui est de droite, qui c'est qui est de gauche, le jeu des boîtes, etc. Ça m'amuse pas. C'est pas intéressant en fait, c'est pas une grille d'analyse intéressante, c'est pas performant en termes de capacité à comprendre les enjeux. Donc moi je rentre pas dans le truc, voilà. La gauche a gagné, c'est un fait. D'accord. Et ben on le verra au prochain budget alors. Puisque la gauche a gagné, elle va adopter un budget de gauche. J'ai hâte. Du point de vue LFI, les autres sont de droite. Oui, mais j'ai envie de te dire, je vous rappelle quand même. Que. Comment il s'appelle l'autre con? Éric Zemmour a déclaré que Marine Le Pen était de gauche. Voilà. Pour Zemmour, la gauche, ça commence à Marine Le Pen. Ok, d'accord, si tu veux. T'as le droit. Oui. À ce petit jeu-là, évidemment, comme chacun est son propre centre, tout le monde regarde le reste du paysage politique par rapport à son point de vue. C'est normal. Donc, oui, d'accord. Ok. Et je vous rappelle. Que selon. Merde. Le mec qui s'est barré du NPA, là, en 2000, en 2020, en 2021, parce qu'il pouvait pas avoir sa candidature. Anas Kazib. Anas Kazib, pour lui, la droite, ça commence au NPA. Et la France Insoumise est évidemment un mouvement de droite. Hein. Ça, y a pas le quart du début d'une réflexion. C'est un mouvement de droite, la France Insoumise, avec leur drapeau tricolore, là, dans les meetings. Quand t'es un communiste révolutionnaire, je suis désolé, la France Insoumise, c'est un mouvement de droite. Hein. Quand t'es un communiste révolutionnaire. Quand même, deux, trois colonnes vertébrales dans ce pays, la gauche trotskiste, c'en est une. C'en est une. Drapeau tricolore et LFI? Bah oui. Vous savez tout le discours de Jean-Luc Mélenchon sur la Révolution française? Antoine Léaumont qui en fait des caisses sur la DDHC, etc. Tout ce discours-là sur la nation française née de la Révolution, etc., c'est un discours qui ne plaît pas du tout à la gauche révolutionnaire. Ils n'ont jamais été là-dedans. C'est pas du tout leur délire, hein. La glorification de la nation française avec les drapeaux tricolores dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Non. Très peu pour eux. Et ils ont leur cohérence, les internationalistes exactement. Ils ont leur cohérence idéologique, hein, la gauche révolutionnaire. Je ne leur retire pas ça. Au contraire, ils sont tellement cohérents qu'ils savent très bien ce qui appartient ou pas au camp de la gauche. Pour eux, pas pour tout le monde. Comment ça se fait qu'ils n'aiment pas le drapeau? Parce que les communistes révolutionnaires sont internationalistes. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ils ne sont pas pour les frontières, ils ne sont pas pour les nations. Ils détestent les drapeaux, ils détestent le chauvinisme. Eux, ils sont pour l'internationale ouvrière. Ils sont pour que tous les travailleurs du monde se révoltent Parce qu'ils ont des intérêts communs qui sont les intérêts matériels de classe, etc. Je vous refais pas le capital, mais vous avez l'idée. Donc voilà. Pour eux, la République française, c'est du fétichisme, c'est pas trop leur délire, hein. Ça veut pas dire qu'ils rejettent les idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité, etc. Ils sont pas si sectaires que ça, hein, vous savez. Ça s'entend. Mais oui, ça s'entend. Il y a une cohérence qui se respecte, hein. De la même manière que le drapeau tricolore n'était pas tout à fait du goût de l'extrême droite, jusque au début des années. Au début des années 20. À l'époque, enfin, tu regardais les ligues fascistes qui manifestaient dans les rues, ils n'avaient pas le drapeau tricolore, hein. Ils avaient les croix de feu, ils avaient des fleurs de lys, ils avaient des symboles. Des symboles royalistes, parce que je vous rappelle que le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la République. Et la République, quand t'es d'extrême droite, c'est une gueuse. C'est comme ça que dénonçait Charles Maurras, grand penseur de l'extrême droite française de l'entre-deux-guerres, dénonçait la République française. Dit la République, c'est un projet de gauche. La République, cette idée folle de liberté, d'égalité et de fraternité, mais et puis quoi encore? C'est pas ça la France. La France, c'est le roi. La France, c'est la catholicité. Quand t'es royaliste, quand t'es monarchiste, quand t'es d'extrême droite dans les années 20, drapeau tricolore, tu le vomis. Fleur de lys plus drapeau français, c'est incohérent. Ah bah oui, un peu. Donc l'extrême droite française, elle a fait du chemin depuis, parce qu'il y a quand même eu des évolutions depuis. Et aujourd'hui, elle revendique le drapeau tricolore, etc. Elle se déclare patriote, machin. Ça a beaucoup changé au moment de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, hein, en réalité. Mais voilà. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, c'est ça, parce qu'on parlait des principes d'appropriation et de rejet des valeurs et des symboles revendiqués par les autres. Et ça n'a rien à voir avec le début de la discussion qu'on avait sur la coalition gouvernementale. En même temps, vous avez bien compris que je suis bien emmerdé, moi, parce que je suis incapable de vous dire qui va être le prochain Premier ministre. C'est le Dawa. Et que de toutes les façons, quel que soit le prochain Premier ministre, n'attendez pas une fumée blanche à l'Élysée qui va solutionner le problème. Quel que soit le prochain Premier ministre, moi j'ai qu'un seul truc à lui dire, c'est bon courage, mon pote. Et t'as un budget à faire voter dans 3 mois. Courage, salut, ciao. Ça veut dire quoi la fumée blanche? C'est une référence au conclave qui élit le pape et qui annonce au monde sa décision par une fumée blanche qui sort de la cheminée dans laquelle il brûle les bulletins de vote. Voilà, ça vient de là, la fumée blanche. Fumée blanche, ça veut dire nous avons un nouveau pape, Habemus Papam, en latin. Est-ce qu'un nom peut sortir dès vendredi? Vendredi, je ne pense pas, parce que vendredi, c'est le jour de la concertation, enfin des rendez-vous de l'Élysée où Emmanuel Macron va recevoir dans son bureau tour à tour les différentes familles politiques du Parlement. Et je pense qu'on pourra éventuellement avoir un nom de Premier ministre, soit ce week-end, soit en début de semaine prochaine, soit ça peut encore attendre, hein, parce que si ça se trouve. Si ça se trouve, vendredi soir, Macron, quand il raccompagnera le dernier représentant politique sur le perron de l'Élysée, il se dira « Eh ben, je suis pas dans la merde, moi. » Me v'là bien avancé. En même temps, on lui avait dit que la dissolution, c'est une mauvaise idée. Tout le monde lui a dit que c'était une connerie, la dissolution. Et que Bruno Rejepetit pour penser que c'était une bonne idée. Sans compter la trêve politique pendant les Jeux paralympiques. Bah, il va peut-être nous annoncer une deuxième trêve, ouais. Tu Tu peux expliquer ce qu'est la reconduite des dépenses publiques pour 2025 par Attal avant même le budget ait été voté ? Gabriel Attal est Premier ministre démissionnaire. Il est à la tête d'un gouvernement qui gère les affaires courantes et n'importe quel gouvernement, quel qu'il soit, doit de toutes les manières proposer, préparer ce qu'on appelle préparer un budget. C'est-à-dire quoi préparer un budget ? Ça veut dire préparer un document Excel dans lequel tu mets les ressources, les dépenses de l'État. Et ce document Excel, c'est pas le budget de la France, c'est le projet de budget. C'est-à-dire que c'est un document que tu vas envoyer à l'Assemblée en disant aux députés, maintenant il faut voter ce document. Après l'avoir négocié, etc. Donc en fait, c'est un document martyr, c'est un brouillon. C'est ça un projet de budget. C'est un truc que tu envoies aux députés en disant, allez-y, on négocie maintenant. Donc Gabriel Attal, il a déclaré qu'il proposait de repartir sur le même budget que l'année dernière. L'autre manière de le dire, c'est de dire on gèle les dépenses. Oui, c'est la même chose en fait. Ça veut dire on reprend le budget de l'année dernière. J'ai envie de dire, ok, mais il n'avait pas le choix, Gabriel. Il ne pouvait pas annoncer autre chose. C'est ça que je veux dire. Gabriel Attal n'a pas les moyens politiques d'aller au JT de TF1 et de dire, François Bouleau, nous allons adopter un budget de conquête, un budget de réforme. Nous allons mener une réforme ambitieuse des dépenses publiques. Nous allons réduire le train de vie de l'État. Nous allons augmenter tel impôt et baisser les impôts sur les Français les plus fragiles, etc. Non, il n'a pas les moyens de faire ça. Gilles Bouleau. J'ai dit quoi ? Gilles Bouleau. Bref. Gabriel Attal n'a pas du tout les moyens politiques de dire ça. J'ai dit François Bouleau. C'est quelqu'un, François Bouleau, non ? Je sais plus, bref. Donc Gabriel Attal qui dit « Ouais, je propose un gel des dépenses », bah oui, tu peux rien proposer d'autre, de toute façon. Et de toutes les manières, c'est pas toi qui décides. Ah oui, c'est l'avocat gilet jaune, François Bouleau, c'est ça. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Donc de toute façon, Gabriel, c'est pas toi qui décide, c'est le Parlement, et le Parlement, il décidera. Ou pas. Bref, il fait le taf. Ouais, c'est ça, Gabriel Attal fait le taf, et ne vous émeuvez pas. Ne vous émotionnez pas. De ce genre de déclaration, c'est pas important. C'est pas Gabriel Attal qui fait le budget, c'est pas le gouvernement qui fait le budget. C'est le Parlement. Si un gouvernement se fait censurer, est-ce que Macron peut le renommer dans la foulée ? Bah, selon toute logique institutionnelle, non, puisque ce gouvernement a perdu les moyens de travailler. Un gouvernement ne peut travailler que parce qu'il a la confiance de l'Assemblée nationale. Ou à défaut, parce qu'il n'est pas défié par l'Assemblée nationale. Et pas censuré. C'est le Parlement qui donne le pouvoir au gouvernement. Le Parlement, c'est le supérieur hiérarchique du gouvernement. C'est son patron. C'est lui qui décide. Si le Parlement il décide de te virer, tu dégages. Tu ne peux pas revenir bosser le lendemain matin, non. Sauf un gouvernement démissionnaire, puisqu'on peut pas le censurer. Non mais si, justement, c'est ce que je viens de te dire. Le gouvernement tient son pouvoir de la confiance que lui porte l'Assemblée nationale. Un gouvernement démissionnaire n'a pas de pouvoir. C'est bien le principe d'un gouvernement démissionnaire. Gérer les affaires courantes, ça veut dire t'as pas de pouvoir, frère. Tu peux rien faire, au sens politique du mot faire. Enfin... engager, travailler, etc. Tu peux gérer que les affaires courantes, c'est-à-dire en gros, le ministère de l'Éducation nationale prépare la rentrée scolaire, comme toutes les rentrées scolaires, mais voilà, il n'y a pas de grande réforme de l'Éducation nationale, voilà, oui, on prépare la rentrée scolaire, comme d'habitude, quoi, voilà. Le ministre de l'Intérieur peut éventuellement répondre à quelques urgences. Je sais pas, il y a des feux de forêt, tu peux déployer des pompiers supplémentaires, voilà, ce genre de trucs qui appartiennent aux mesures usuelles de bon fonctionnement des services publics classiques, voilà. Mais ça, c'est pas de la politique, ça, c'est de la gestion. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire la différence entre les ministres et les directeurs d'administration centrale. Le ministre, c'est pas un gestionnaire, un ministre. Un ministre, c'est quelqu'un qui porte et négocie et travaille et fait adopter des réformes, c'est-à-dire des changements des évolutions. C'est ça, faire de la politique. Changer les choses. Existe-t-il des précédents historiques français ou internationaux qui pourraient éclairer la situation? D'un certain point de vue, les autres pays européens, ils doivent nous regarder en se marrant un peu. Je pense vraiment que les Allemands, les Espagnols, les Italiens, ils doivent nous regarder en se disant « Putain, les Français sont en train de découvrir la Lune, ils sont en train de découvrir le fonctionnement normal d'une démocratie parlementaire. » En fait, c'est la 5ème République qui a un régime chelou. Nous, c'est notre standard à nous parce qu'on a grandi dedans, parce qu'on vit dedans, parce qu'on est habitué à ça. Le président de la République, il est élu au suffrage universel direct, etc. Oui, on est habitué à ça. Donc on s'est dit que c'était une mode de fonctionnement normal. Mais en fait, c'est pas normal. Ce qu'on est en train de vivre là, vous et moi, c'est ça qui est normal. C'est une démocratie parlementaire, c'est ça. C'est une incertitude au Parlement, c'est la difficulté à constituer des coalitions. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, des courriers qui sont échangés pour essayer de proposer des voix, des pactes, des trucs comme ça. C'est ça une démocratie parlementaire. Donc, ce qui nous arrive n'est pas bizarre. On est juste en train de rentrer dans la normalité. Il va falloir qu'on s'y habitue, vous comme moi. C'est pas notre culture, bah, il va falloir que ça le devienne. Ouais, la Belgique, bien sûr, les Belges, ils doivent trop rigoler. Donc nos politiques sont immatures. Non mais chargez pas trop la barque aux politiques, hein. Nous aussi on est immatures. Toi et moi on est immatures. Ce que je décris, moi je m'inclus dedans, hein. Moi aussi ça me fait bizarre ce qui est en train de se passer. J'ai étudié la 5ème République. J'ai enseigné la 5ème République à des étudiants. Je la connais par cœur, hein. Je vois très bien comment ça marche, la logique, le bordel, etc. Son histoire, bon, ok. Mais en fait, c'est... On n'est pas au standard international, hein. On est vraiment chelou, hein. Est-ce qu'un président destitué peut se représenter? Je crois pas. Je crois que ça fait partie des conditions pour déposer une candidature à l'élection présidentielle. Ne pas avoir été destitué. Je crois. À vérifier. Mais ce que je trouve intéressant dans les discussions qu'on est en train d'avoir, vous et moi, c'est que je vois poindre chez certains commentaires le début de ce qu'on appelle l'antiparlementarisme. C'est-à-dire la dénonciation de toutes ces élites politiques à l'Assemblée qui sont incapables de se mettre d'accord, qui ne savent pas travailler ensemble, qui font que s'engueuler, etc., etc. Et ça, pour le coup, ça a une histoire. C'est pas récent. La 4ème République était justement mal aimée pour précisément cette raison-là. Quatrième République était jugée, notamment par les gaullistes, comme étant un régime instable. C'était le bordel, on savait jamais qui était au gouvernement, les gouvernements sautaient tous les 4 mois, il y avait des nouveaux ministres, des ministres qui revenaient par la porte, par la fenêtre, etc. C'était n'importe quoi, c'était un régime de parti. De Gaulle détestait ça, il appelait ça les régimes de parti. Tous ces conciliabules-là, les trucs où les partis politiques se font des petits cénacles entre eux pour négocier des petits points de programme et tout, pour ensuite négocier des postes et tout machin. C'est ce qui a donné naissance à la 5ème République. Ce rejet de la 4ème. C'est ça qui a donné naissance à ce régime, avec un président de la République fort, un gouvernement, un parlement rationalisé, etc. De Gaulle a eu une victoire idéologique à ce moment-là. Bon, en plus, il y avait la guerre d'Algérie et c'était le Dawa. Et cette question, elle est pas propre à la France. Hein. C'est une question qui traverse toutes les démocraties parlementaires. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut comme type de gouvernement ? Qu'est-ce qu'on veut comme type de parlement ? Qu'est-ce qu'on veut comme pouvoir au parlement ? Qu'est-ce qu'on veut comme type d'élection ? Qu'est-ce qu'on veut comme disparité politique, comme représentation politique, etc. C'est la base de la réflexion philosophique et politique qui mène à la rédaction d'une constitution. Et c'est un très beau travail intellectuel. Hein. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'un constitutionnaliste qui n'est pas du tout mort, hein, c'est Dominique Rousseau, qui avait raconté que au moment des printemps arabes, en 2011, il avait été invité à Tunis par les Tunisiens, qui avaient donc renversé Ben Ali. Ben Ali qui était au pouvoir depuis 30 ans, etc. Il avait été invité par des révolutionnaires tunisiens, du coup, à venir donner une conférence sur comment on écrit une constitution. Et Dominique Rousseau y était allé et il avait fait une conférence et il avait dit aux Tunisiens, bon ben voilà, les différents schémas qui peuvent exister, etc., régime parlementaire, régime présidentiel, régime mixte, etc. Et Dominique Rousseau, il avait essayé de mettre en garde les Tunisiens en leur disant, attention, si vous donnez tout le pouvoir au Parlement et que vous faites un scrutin de type proportionnel, vous risquez de tomber dans un éclatement politique de l'Assemblée avec plein de petits partis, des petits groupes, et c'est très instable politiquement, etc. Machin. Et les révolutionnaires tunisiens lui avaient répondu « Ok, on entend la mise en garde, mais il faut comprendre que nous, les Tunisiens, ça fait 30 ans qu'on a un parti unique. » Donc en fait, cette diversité politique, cet éclatement politique, nous, on le veut. On en a envie, en fait. Alors ok, ça risque d'être le bordel, un peu compliqué, etc. Mais en vrai, on sort de 30 ans de parti unique, bah ça nous ferait peut-être un peu de bien d'avoir une diversité politique. Et leur argument n'était pas faux, en fait. C'est pour ça qu'une constitution, la constitution idéale n'existe pas. Une constitution, ce n'est pas un code source que vous installez dans une machine ou dans un pays et ça se met à fonctionner. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Une constitution, ça doit correspondre à une culture politique, à une histoire, à une philosophie politique, à un peuple, à une nation, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle se représente elle-même. La philosophie politique est au moins aussi importante que la technique. La question de savoir est-ce qu'on fait un 49-3, etc., machin, c'est très intéressant. Mais il y a aussi, un scope à avoir sur qu'est-ce qui correspond à un peuple à un moment donné de son histoire. Chacun son code source. Bah oui, chacun son code source. Et ils sont tous imparfaits, et ça peut se changer, on peut en discuter, etc. D'ailleurs, la constitution de 58 est un compromis entre l'inspiration présidentielle de Charles de Gaulle et de l'inspiration parlementaire de Westminster de Debré. Ouais, c'est vrai. Dans les discussions qui a eu lieu, enfin bon, c'est un compromis certes, mais c'est quand même la base de la répartition des pouvoirs sur la 5ème République a quand même été pensée par de Gaulle dès la libération. Hein. Dès 44, de Gaulle, il avait déjà tenu des discours sur ce qui lui semblait être une bonne République et ça ressemblait quand même vachement à la 5ème. Voilà, donc on vit toujours dans la République pensée par De Gaulle. Elle a quand même été modifiée plusieurs fois, cette constitution. Le discours de 46, ouais, c'est le discours de Bayeux, de De Gaulle. C'est le truc qu'apprennent par cœur tous les étudiants en droit constitutionnel, en première année. Je disais, on vit toujours dans la 5ème République. Elle a quand même été modifiée plusieurs fois, substantiellement. La 5ème République, elle a quand même pas mal changé en 62, en 71, en 92, 2000, 2008. Bon, voilà, il y a quand même eu des révisions et tout. On est dans la 5ème Turbo HD Remix. la version RIP. La version RIP. Avec des sous-titres communautaires. Le Big Bang constitutionnel, c'est l'ouverture du CCE aux parlementaires en 62. C'était pas en 62, hein, c'était plus tard. En 62, c'était l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui était déjà un Big Bang. Elle est comment la version vanilla? La version vanilla de la Constitution de 58, bah, le président de la République est élu par un collège de grands électeurs. Figurez-vous. Donc c'est à l'époque, c'était les députés, les sénateurs, les conseillers généraux. Ça devait être plus ou moins ça. Ah, pas du tout comme aux USA. Ah non, 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 pas du tout comme aux USA. Non, non, aux USA, ce sont des délégués qui sont élus pour voter pour le président. Là, les grands électeurs, ils sont pas élus pour ça. C'est des élus locaux, les grands électeurs. Pourquoi on n'est pas resté sous la Troisième République? Tu connais pas l'histoire? Elle est pas marrante, hein. Mais disons qu'il y a plus ou moins eu un moustachu à un moment qui a foutu un peu le bordel en Europe, pour le dire simplement, et que ça a eu quelques conséquences en France. Pourquoi on n'a pas juste rétabli la constitution de la troisième? Ben parce que justement, parce que la troisième république avait fini lamentablement dans le vote des pleins pouvoirs à Pétain. Personne n'avait envie de restaurer ce régime qui a été le régime de la défaite, de l'humiliation, de la collaboration. Enfin, tu vois, c'était. Alors, pas le régime de la collaboration, non, parce que Philippe Pétain a mis fin à la république et il a créé l'État français, etc., etc. Mais du coup, en 44, à la libération, les forces politiques en présence. Donc, les gaullistes, les socialistes et les communistes, pour la faire courte, se sont mis d'accord sur de nouvelles institutions. C'est comme ça qu'on a créé la quatrième, en 46. En plus, la troisième n'avait pas vraiment de constitution, mais plusieurs lois constitutionnelles nées. Des morts de la commune. Ouais, enfin surtout de la débâcle de Sedan. Hein. Mais oui, c'est vrai, la Troisième République, c'est une république qui n'aurait pas dû exister. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est une république qui n'aurait pas dû perdurer. C'est-à-dire qu'elle est née par le vote de plusieurs lois constitutionnelles qui devaient normalement être les prémices à la rédaction d'une constitution plus tard. Mais finalement, en fait, le parlementarisme est né à ce moment-là, en grande partie, et du coup, bah, les institutions sont maintenues. Et elles se sont maintenues vachement plus longtemps que ce qu'on pensait. Genre vraiment. Elles sont allées jusqu'en 1940. Alors qu'au début, on s'était dit que ça prendrait quelques années, et puis après, on changerait de régime. Donc c'est ouais, c'était plus ou moins un bricolage, ouais. Marrant. Ah, puis en plus, la Troisième République, en plus de durer longtemps, elle a quand même donné naissance à des lois structurantes de l'histoire de France. Enfin, je. La laïcité, c'est l'une d'entre elles, les lois sur les associations, les lois sur les syndicats. La Première Guerre mondiale. L'école, ouais, l'école. Congés payés, la liberté de la presse, la loi de 1881, bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, ce n'est pas des petites lois quand même qui ont été votées sous la Troisième République. C'est des lois qui s'appliquent encore aujourd'hui, qui structurent encore aujourd'hui notre paysage politique, notre paysage juridique. Donc, ouais, non. Impressionnante la Troisième République. La loi sur les assos, ouais, les associations, loi 1901. Quand vous créez une association en France, vous la placez sous le régime de la loi de la Troisième République, loi 1901. Merci Amish qui offre un sub. Merci beaucoup. La quatrième a aussi donné la Sécu, par exemple, et pourtant personne ne veut y revenir. La quatrième République, ça a été la République de la République sociale. Oui, t'as parfaitement raison. L'institution, la sécurité sociale, etc., la structuration d'un certain nombre d'organisations et de pouvoirs et de dialogues entre les forces syndicales. Oui, personne ne veut y revenir. Non, mais je te rassure, personne ne veut revenir à la troisième. Hein. Personne ne veut revenir à la troisième. Hein. Et donc, on fait quoi maintenant? Ben, j'en sais rien. Moi, je suis très favorable à une sixième République, mais à force de le gueuler comme un slogan, personne ne dit ce qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on met dans cette sixième République? Comment on l'écrit? Est-ce qu'on rationalise le parlementarisme? Est-ce qu'on maintient un conseil constitutionnel? Est-ce qu'on maintient une destitution du président de la République par le Parlement? Est-ce qu'on élit toujours le président de la République au suffrage universel direct? Est-ce qu'on limite le droit d'amendement des parlementaires? Vous savez comment on écrit une sixième République? C'est simple. Regardez. Prenez une feuille de papier et vous écrivez en titre Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Ensuite, vous faites deux colonnes. À gauche, vous mettez les pouvoirs que vous confiez à Jean-Luc Mélenchon et à son gouvernement. Et à droite, vous mettez les pouvoirs de l'opposition. Que peut faire l'opposition pour s'opposer à Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'ils ont le droit de déposer des amendements? Est-ce qu'ils ont le droit est-ce qu'ils ont des niches parlementaires? Est-ce qu'ils ont le droit de déposer donc des propositions de loi? Est-ce qu'ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel? Est-ce que machin? Bon, voilà. Vous faites une colonne comme ça, pouvoir, opposition. Et là où l'exercice commence, c'est que vous gardez votre feuille, vous effacez Jean-Luc Mélenchon, président de la République, et vous écrivez Marine Le Pen, présidente de la République. Et là, vous relisez vos deux colonnes. Et vous vous posez la question, quel pouvoir elle a? Et quel pouvoir ont les oppositions? Et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des corrections à faire. Parce que tout bien réfléchi, ouais, non, ça j'ai pas envie qu'elle puisse le faire. Ça j'ai pas envie qu'elle puisse le faire facilement. Ça j'ai envie que l'opposition puisse pouvoir s'y opposer. Ça j'ai envie que machin, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on écrit une constitution. Ne pensez jamais une constitution comme un régime idéal dans lequel vous avez le pouvoir. Mettez-vous dans l'opposition. Et posez-vous la question. J'ai perdu les élections, je suis minoritaire. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Voilà. Pas sûr que De Gaulle ait réfléchi comme ça. De Gaulle, il a notamment réfléchi sur la possibilité d'avoir un gouvernement minoritaire. De Gaulle, il y avait réfléchi à ça. Et Debré et De Gaulle avaient réfléchi à ça. C'est pour ça que t'as pas mal des, par exemple, le 49-3. Ce genre d'article-là, ça sert à éviter les blocages institutionnels qu'on avait sous la 4ème République. Tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que vous gardez le 49-3 dans la 6ème République? Est-ce que le gouvernement peut faire adopter une loi sans vote s'il échappe à une motion de censure? Ça dégage. D'accord, ok. Une motion de censure à l'allemande, en effet, ça revient de plus en plus. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Les motions de censure à l'allemande, c'est des motions de proposition de coalition alternative. Bah oui, dans un régime de coalition, ça a du sens. Nous, on n'est pas habitués, mais en fait, ça a du sens. Donc, si vous votez une motion de censure, si vous votez une motion de censure, ça veut dire que vous êtes prêt à prendre le pouvoir avec toutes les personnes qui l'ont voté cette motion de censure. Et que vous devez faire une proposition alternative de gouvernement. Est-ce que vous gardez un Sénat? Comment vous le composez, votre Sénat? À quoi il sert? Pourquoi faire? Est-ce que vous gardez un Conseil économique, social et environnemental? Est-ce que vous mettez la sécurité sociale dans la Constitution? Est-ce que vous mettez la sécurité sociale gouvernée et dirigée par les partenaires sociaux? Est-ce que l'État a le droit d'abonder au budget? Ou alors est-ce que vous voulez une sécurité sociale indépendante? Ça, c'est une bonne question. Je vous conseille pas, hein. La sécurité sociale n'a pas les moyens d'être indépendante de l'État. Est-ce que vous gardez le défenseur des droits? Très bonne question. Quel pouvoir vous lui donnez? Est-ce que vous donnez plus de poids aux conventions citoyennes? Oui, en plus, t'as raison, c'est vrai qu'il y a quand même des nouveaux outils qui sont plus ou moins apparus ces dernières années dans le paysage, qui peuvent être intéressants d'institutionnaliser, de constitutionnaliser. Les conventions citoyennes, c'est une bonne idée. Donc le principe du tirage au sort pour les conventions citoyennes, ça peut être intéressant. Les cahiers de doléances, grand débat national, je sais pas, il y a peut-être des trucs à reprendre, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on fédéralise les régions? Ah ouais, putain, putain, raison. Alors ça, alors là, va y avoir tout un chapitre qu'il va falloir ouvrir, c'est la décentralisation. Quelle république décentralisée? Déjà, est-ce qu'on garde une république décentralisée? Comment on organise la décentralisation? Est-ce qu'on maintient la clause de compétence générale pour les conseils régionaux? Ah non, mais. Il faut encore plus de décentralisation? Ça veut dire quoi? C'est une vraie question, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir législatif pour les régions? La France devient une fédération de régions, comme l'Allemagne avec ses Länder? Les conseils régionaux se mettent à avoir un pouvoir législatif? À l'américaine, avec une cour suprême par région? Un gouverneur par région, un parlement par région. Jean-Luc Mélenchon va vous gronder, hein, très très fort. Hein. Ouh là, les Jacobins, ils aiment pas ça. Quand les gens seront mieux soignés dans une autre région, ils vont revenir en arrière. Ah, la concurrence territoriale. Avec les régions pauvres et les régions riches, là. Ah, on n'aura pas une école à deux vitesses, on aura une école à 7 ou 8 vitesses. Comme ça, il y aura un bac par région. Ah, on n'aime pas ça. Enfin, on n'aime pas, on n'aime pas. Ça a l'air de vous plaire, hein. Jean-Luc Mélenchon et moi, on n'aime pas trop. Concurrence fiscale entre régions. Ah ouais, on va avoir une région du Delaware, comme aux États-Unis. Vous savez, l'État du Delaware qui a inventé la concurrence fiscale. Ils avaient un gouverneur dans les années, je sais plus combien, qui a décidé de baisser les impôts drastiquement dans son État en disant on va être concurrent de tous les autres États et fiscalement les gens vont avoir intérêt à venir chez nous. Ça a cartonné son idée. C'est comme ça que le Delaware est devenu un paradis fiscal, y compris en sein des États-Unis. Eh ben on aura pareil, tiens. On aura la région PACA, présidée par Éric Ciotti et Marine Le Pen, qui aura des impôts très bas. Des flics partout, et tout le monde aura envie de s'installer là-bas parce que leurs impôts sont les plus bas. Ah, ça va être génial. T'es quand même au courant que LFI utiliserait pour autant le 49-3 que le gouvernement Borne. Pourquoi faire croire le contraire? J'ai jamais fait croire le contraire. Qui t'a entendu dire ça? J'ai toujours défendu l'idée que le 49-3 est une arme qui serait utilisée par LFI si LFI était au pouvoir. C'est sûr. Ils sont pas cons, hein. Ça fait des années qu'il dit exactement ça. Ça fait des années que je vous gonfle avec ça en plus. C'est vrai ça. Ah non, j'ai des marottes, attendez, je fais une petite pause pour vous dire un truc important. Vous avez reçu du courrier, vous avez reçu un mail. Enfin, comme l'année dernière, vous avez reçu un questionnaire par mail sur Baxit, sur l'émission Baxit. C'est un questionnaire Tu l'as déjà dit. Non, ça je l'ai déjà dit, mais vous étiez vachement moins nombreux. Donc là, j'en profite, vous êtes plus nombreux. Vous avez reçu un questionnaire par mail sur l'émission Backseat. Je vous saurai gré de bien vouloir le remplir, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ce qu'on pourrait changer, tout ça. Ça nous est très utile pour préparer la saison 4. Vous l'avez reçu par mail, parce que tous les tipeurs l'ont reçu par mail. Vous le trouverez sur votre espace sur KissKissBankBank. Sinon, si vous êtes membre du club Backseat, vous avez reçu un questionnaire séparé. Il y a un questionnaire spécial pour les membres du club. Merci du fond du cœur de bien vouloir remplir les questionnaires, ça nous aide beaucoup. Et vous avez jusqu'au 4 septembre pour les remplir.
Voilà.
Fin de la publicité. Merci beaucoup, les amis. Changer Usul. Ah non. Je suis désolé. Ça, c'est un engagement que j'ai pris devant vous. Il y aura toujours, dans Backseat, des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Ah, c'est obligatoire, c'est dans les règles. C'est dans la constitution de Backseat. C'est terrible, on peut rien y faire. Changer le présentateur. Espèce d'enfoiré. Si on participe mais qu'on regarde peu ou pas l'émission, est-ce que c'est important de répondre au questionnaire? Question un peu conne mais légitime. C'est très important de répondre au questionnaire, y compris si vous regardez peu Backseat. La raison à ça, c'est que je ne veux pas avoir que les réponses des fans les plus fans. Non pas que ça ne m'intéresse pas d'avoir leur avis, c'est que ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir comment on peut améliorer l'émission. Et donc si tu trouves que Backseat, s'il manque des trucs, s'il y a un truc qui te fait chier dans Backseat, etc., c'est important que tu nous le dises. On a plus intérêt à avoir des réponses de ta part que des fans les plus hardcore. Donc vraiment merci, hein, les casus, on a besoin de vous. Hein. Le retour de l'invité qui joue au quiz à la con. Non, non, ça on va pas faire ça. Non. Je sais que ça t'amuserait beaucoup. Je sais que ça t'amuserait beaucoup, mais non, on va pas jouer au quiz à la con avec l'invité politique. Toujours pareil. Ça vous fait marrer quand c'est un insoumis. Puis alors dès que c'est un macroniste, vous rigolez beaucoup moins. Ah bah voilà. Ah bah bravo. Comme la Constitution, je vous ai dit. Si t'as que des messages du genre c'est génial, ne changez rien, ça t'intéresse pas. Bah si, ça m'intéresse quand même. Non mais je suis très content si je reçois des messages de gens qui me disent moi l'émission elle me convient, je l'aime beaucoup, changez rien. Je suis très content d'avoir ce message là. Et si j'ai que des messages comme ça, bah j'en tirerai la conclusion qu'elle est plutôt pas trop mal comme émission, enfin je trouve qu'on s'en sort bien. Mais voilà, mais si on a aussi des messages qui suggèrent des trucs, on est content aussi de les recevoir pour les... Là, pour faire éventuellement évoluer l'émission, mais pour moi c'est pas un totem, hein. Je fais pas évoluer l'émission pour le principe. On peut l'avoir où, je veux dire, en s'inscrivant où? Ah, tu donnes pas déjà de l'argent à Backseat? Ah merde! Ah, mais ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens comme ça qui... Ah, apparemment, ça existe. Il y a des gens qui ne participent pas au financement de Backseat. Je croyais que c'était rare, mais apparemment, c'est plus répandu que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, tu peux l'avoir sur le KissKissBankBank de l'émission Backseat. Je rigole évidemment, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui donnent à Backseat, qui financent cette émission. Vous êtes la colonne vertébrale de cette émission. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on l'a fait et c'est pour vous qu'on l'a fait. Si tu ne donnes pas encore à Backseat, tu peux changer cet état de fait en te rendant sur la page KissKissBankBank de l'émission Backseat. Si on n'a pas donné parce qu'on est trop pauvre, est-ce qu'on peut répondre quand même? Malheureusement, non. Le questionnaire est réservé aux donateurs de Backseat. Plus sérieusement, est-ce que tu t'imaginais à réussir à tenir une quatrième rentrée de Backseat? Alors moi, je m'imaginais rien. Enfin, vu l'année que j'ai passée, les gars, je l'ai commencé à l'hosto, autant te dire que moi, je m'imaginais rien du tout. Donc, pour l'instant, on est content. Pour l'instant, on est content. Et on est content d'avoir ce qu'on a. Et l'avenir est un pari. Est-ce que vous touchez de l'argent si on regarde Backseat sur YouTube?
Un tout petit peu.
Un tout petit peu, oui. Qu'est-ce qu'on disait avant la pub? Je sais plus ce qu'on disait. Des trucs pas trop débiles, j'espère. Décentralisation. Ah ouais, on était rentré dans ce rabbit hole là. La décentralisation. Ah, c'est dur, hein. On s'est imposé un truc vénère. Non mais là, non mais la décentralisation à 19h à 21 août, c'est dur quand même. Non, c'est un peu raide. Ça fait mal. T'allais parler des fonds de péréquation. Oh non, niquez-vous. Non, non, la péréquation, c'est pas pour aujourd'hui. Avec 5000 geeks qui en demandent en plus. Non, mais c'est ça. C'est une torture. Est-ce que vous avez parlé des pistes de coalition de notre cher président? Oui, on a parlé de tout ça au début du stream. Toute la première partie du stream, on a grosso merdo trouvé une solution au problème. C'était facile en fait, hein. Pas pour qu'on se prend la tête. En vrai, ça roule, hein. Ce qui va se passer, les amis, c'est que je vais m'arrêter là. Comme hier. Comme hier, petit stream de 2 heures. On reprend tranquille, hein. Solide sur les appuis. On évite de se faire les croiser. Je viens d'arriver, mais tu peux regarder le replay. Bah oui, en plus t'es abonné, toi, tu peux regarder le replay. Vous savez que si vous vous abonnez à ma chaîne Twitch, vous pouvez regarder les replays de toutes mes émissions. C'est gratuit. C'est gratuit si vous payez. C'est ça qui est bien fait. Demain, peut-être que je ferai un stream, figurez-vous, parce que du coup, ouais, parce que je m'étais embrouillé le cerveau. Je pars pas demain, je pars vendredi. Donc du coup, demain, ça se trouve, petit stream, hein. Si vous êtes sage. Si vous êtes sage, hein. Si vous demandez poliment. Merci Moustix! Merci beaucoup Moustix pour les 10 subs offerts au chat, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat. Les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve peut-être demain si vous êtes sages. Salut à tous, ciao, bye bye.